Chapitre 2. Le commandant Didi Warren de la police de Boston était sur une affaire, et ça ne l'enchantait pas. C'était inhabituel. Bourreau de travail, Didi ne vivait que pour son métier. Rien ne la ravissait tant qu'une retentissante affaire d'homicide qui exigeait d'innombrables nuits au cours desquelles son équipe et elle se nourrissaient de pizzas froides et enchaînaient les heures à la poursuite de leur proie. D'accord, elle était devenue maman, et le petit Jack se révélait aussi insomniaque que sa mère. Les dents ? Sans doute pas à 10 semaines. Des coliques ? Possible. Les bébés ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. La veille au soir, Didi avait essayé de lui chanter une comptine. Il avait pleuré de plus belle. Pour finir, elle l'avait bercé en pleurant avec lui. Ils s'étaient tous les deux endormis vers 4 heures du matin. Le réveil de Didi l'avait réveillé à 6, mais ses 2 heures de sommeil n'étaient pas la raison de sa mauvaise humeur. Certes, sa vie avait connu un autre bouleversement majeur. Quant à sa grande surprise, elle avait découvert qu'elle était enceinte à l'âge de 40 ans. Elle avait décidé de tenter le coup du bonheur familial et de s'installer pour de vrai avec le père de son enfant. Elle avait vendu son loft du North End, dit bye-bye aux 3 ou 4 meubles dont elle avait pu faire l'acquisition au fil des années, et emménagé dans la petite maison de banlieue d'Alex. Il lui avait de bonne grâce cédé tout le placard. Elle s'efforçait de ne plus monopoliser la couette, ils adoraient tous les deux la chambre d'enfant. Alex la soutenait, il était attentionné, et surtout en tant que spécialiste des scènes de crime et instructeur à l'école de police, il avait le bon goût de lui laisser beaucoup de liberté pour exercer son métier. Il venait de passer toute la nuit à la relayer auprès du bébé, donc Alex n'était en aucun cas la cause de sa mauvaise humeur. De fait, c'était aussi sa première affaire importante après ses 8 semaines de congé maternité, mais vu les 15 jours de paperasse qu'elle venait de se farcir, une enquête de terrain était la bienvenue, et clairement pas non plus la raison de sa mauvaise humeur. Franchement, elle n'avait pas envie d'en parler. Elle avait juste envie de passer un peu ses nerfs sur les autres. Elle se fraya un chemin dans la foule des badauds qui se pressaient toujours plus nombreux sur le trottoir et montra sa plaque à l'agent en tenue posté devant le ruban de scène de crime. Il nota consciencieusement son nom et son numéro de matricule dans le registre, puis elle passa sous la rue Balise, enfila des surchaussures et une charlotte avant de gravir enfin l'escalier en bois dont la peinture s'écaillait. La scène se situait au premier étage de l'immeuble gris terne. Un 2 pièces dans un logement social. La victime était un homme blanc, la quarantaine, ce qui, pour autant que Didi pouvait en juger, faisait de lui le seul blanc à plusieurs rues à la ronde. Il vivait apparemment seul, et la police n'avait été appelée que lorsque les voisins s'étaient plaints de l'odeur. Didi avait une sainte horreur des logements sociaux. Si on avait pu prendre le désespoir et lui donner la forme de 4 murs, un toit qui fuit et très peu de fenêtres, ça aurait à peu près donné ça. Elle détestait les jeunes voyous qui la toisaient avec effronterie à son arrivée, déjà tellement sinistre. Autant faire chier un flic, puisqu'il n'avait plus rien à perdre. Elle s'agaçait de voir des mamies rabougries de 80 ans obligées de se coltiner de gros sacs de courses jusqu'au 3e étage pour retrouver une glacière en hiver et un four surchauffé à 50 degrés en été. Elle était désespérée par les meutes de petits sauvages qui la regardaient avec méfiance depuis le pas de leur porte, parce qu'à l'âge de 4, 5 ou 6 ans, ils avaient déjà appris à haïr tout ce qui représentait de près ou de loin l'autorité. Les relations interraciales à Boston, la situation socio-économique dans les quartiers déshérités, collez-y l'étiquette que vous voudrez, ces cités étaient pour Didi un constant rappel de la proportion significative de la population dont son travail ne parvenait pas à améliorer la situation. Un type avait été assassiné ici. Didi et son équipe allaient enquêter. Ils arrêteraient le coupable, et pour tous les habitants de cet immeuble, la vie resterait aussi merdique demain qu'aujourd'hui. Le commandant Didi Warren était de mauvaise humeur, mais elle n'avait pas envie d'en parler. Neil, son collègue, l'accueillit sur le palier du 1er étage. Ce rouquin dégingandé de 32 ans avait été ambulancier avant d'entrer dans la police, et il leur servait donc d'expert à demeure chaque fois qu'il y avait crime de sang. À l'instant présent, il se bouchait le nez et la bouche avec un mouchoir, ce qui parut de mauvais augure à Didi. Un seul regard à l'air renfrogné de celle-ci, et il eut un léger mouvement de recul. « Le bébé ? » demanda-t-il timidement. « Pas pour ça que je suis de mauvaise humeur, » rétorqua-t-elle. Neil s'accorda un instant de réflexion. « Alex t'a quitté ? » ?»« Oh, je t'en prie !» Elle adorait son équipe et son équipe l'adorait, mais le simple fait de travailler à ses côtés suffisait à les convaincre qu'Alex, qui vivait avec elle, devait être un saint. Pas pour ça non plus que je suis de mauvaise humeur. Tu n'es pas obligé de rentrer dans l'appartement, hasarda Neil. Au cas où tu t'inquiéterais de l'odeur ou... Il ne termina pas sa phrase, réduit au silence par le regard menaçant de Didi. « Mes parents débarquent !» lâcha-t-elle. « Tu as des parents ?» Elle leva les yeux au ciel. « En Floride, » marmonna-t-elle. « Ils vivent en Floride, où ils jouent au golf, au bridge et font tout ce que font les vieux. Ça leur plaît d'être là-bas, ça me plaît qu'ils soient là-bas. Ce n'est pas parce que j'ai un bébé qu'il faut saboter une affaire qui marche !» Neil approuva, attendit. Quand il fut clair qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire, il se pencha légèrement en avant. « Ils ont des prénoms ?»« Patsy et Roy. »« Oh ! Tout s'explique. On pourrait parler de la victime maintenant, s'il te plaît. »« J'ai cru que tu ne poserais jamais la question. »« Ça se présente comment ?»« 2 balles dans la tête. La mort remonte sans doute à 3 ou 4 jours. » Didi s'étonna. « Gonflé ? Ballonné ?» demanda-t-elle à propos du cadavre. « Avec ce froid de gueux, ça va encore, » la rassura Neil. Exact. Dans la moiteur ambiante du mois d'août, Didi aurait flairé un cadavre de 4 jours à plusieurs immeubles de distance. Mais en l'occurrence, à 3 mètres de la porte, elle ne sentait qu'une vague odeur rance. Dieu soit loué pour les températures polaires qui règnent mi-janvier à Boston. Puis une idée lui vint. « Et le chauffage de l'appartement ?» Éteint. Tiens donc. Par la victime ou par l'assassin ? Neil haussa les épaules. À ce stade, il ne pouvait évidemment pas connaître la réponse, ce qui ne voulait pas dire qu'il ne s'était pas posé la question. Didi réfléchissait souvent à voix haute, ce dont, par pur instinct de survie, son équipe avait appris à ne pas se formaliser. Qui est là ? Demanda Didi en parlant des autres enquêteurs. Neil énuméra plusieurs noms. Le 3e membre de l'équipe, Phil, le père de famille nombreuse, quelques techniciens de scène de crime qui relevaient les empreintes, le photographe, les services du légiste. Pas trop de monde, Didi aimait autant. Les lieux étaient exigus et les agents en surnombre, même soi-disant experts, mettaient souvent la pagaille. Didi se plaisait à exercer un contrôle strict sur ces scènes de crime. Si par la suite il devait y avoir un problème, ça lui retomberait dessus. Mais elle préférait prendre la faute sur elle plutôt que d'avoir à surveiller tout un troupeau d'agents. « Qu'est-ce que je dois encore savoir ? » demanda-t-elle à Neil. « Je ne te le dirai pas, » répondit celui-ci d'un air buté. Elle le regarda, interloqué. Le 3e de l'équipe, Phil, lui tenait parfois tête, mais Neil rarement. « Si je te le dis et que je me trompe, tu vas t'énerver, » expliqua-t-il, le regard fuyant. « Si je ne te le dis pas et que j'ai raison, tu pourras être fier de toi, et en retirer tout le mérite. » Didi secoua la tête. Neil ferait un excellent enquêteur s'il n'était pas tout le temps en train de se planquer derrière elle ou Phil. Il semblait se satisfaire de leur laisser les premiers rôles, tandis que lui passait ses journées à superviser des autopsies à la morgue. Elle se demanda si le légiste, Ben Whitley, était présent. Neil et lui sortaient ensemble depuis un peu plus d'1 an. Ce n'était pas à proprement parler une idylle entre collègues, mais ça restait dans le même milieu professionnel. De sorte que Didi s'inquiétait de ce qui pourrait se passer s'il rompait. D'un autre côté, mère à 40 ans d'un petit garçon de 10 semaines et sans être mariée, elle se sentait mal placée pour donner des conseils en matière de vie personnelle. L'existence suit son cours. Il faut seulement se cramponner. Elle soupira, se pinça l'arête du nez et sentit tout le poids du manque de sommeil lui tomber dessus d'un coup. Jack était blotti dans son maxi-cosy quand elle l'avait quitté ce matin. Grands yeux bleus et grosses joues rouges. Quand elle l'avait embrassé sur le crâne, il avait agité ses petits poings grassouillets dans sa direction. Est-ce qu'un bébé de 10 semaines en sait suffisamment pour que sa maman lui manque ? En tout cas, l'inverse était vrai. Didi soupira une dernière fois, redressa les épaules et se mit au travail. La première odeur qui assaillit ses narines fut la puanteur extraordinairement astringente de l'ammoniac. Elle fit un bond en arrière comme si elle avait percuté un mur. Déjà des larmes lui montaient aux yeux et elle brassait frénétiquement l'air devant elle dans un mouvement instinctif parfaitement inefficace. Elle baissa les yeux et découvrit le fin mot de l'histoire. Toute une série de tas de crottes, accompagnées d'une bonne douzaine de flaques d'urine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un chiot, » expliqua Neil. Une adorable femelle labrador couleur sable avec des oreilles tombantes, restée enfermée plusieurs jours avec le cadavre. Pas idéal pour l'apprentissage de la propreté. Elle a survécu grâce à l'eau des toilettes et à un paquet de biscuits apéritifs qu'elle a rongés. La fourrière l'a déjà embarquée, au cas où tu voudrais un petit chien pour Jack. Jack dort, mange et c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il ferait d'un petit chien ? Oh ! Dit Neil d'un air docte. C'est sûrement passager. Didi enjamba précautionneusement les ordures laissées par le chiot et traversa le petit séjour derrière Neil pour gagner la cuisine, plus petite encore. Elle salua au passage quelques techniciens de scène de crime, les contournant en souplesse dans ses pièces étriquées. Chacun lui rendait son salut, mais sans interrompre son travail. Vu l'odeur, elle ne pouvait pas les blâmer de vouloir plier l'affaire au plus vite. Dans la cuisine s'ouvrait une porte qui donnait apparemment sur l'unique chambre. Didi y découvrit son autre coéquipier, Phil, assis à un petit bureau, dos tourné à la cuisine. Il portait des gants et ses doigts galopaient sur le clavier de l'ordinateur portable de la victime. Expert technique de l'équipe, il était le plus qualifié pour se livrer à une première exploration de données. Par la suite, naturellement, il remettrait l'ordinateur au crack de la police scientifique pour une expertise plus poussée. Mais il était toujours crucial d'agir vite dans une enquête. Alors Phil aimait bien voir ce qu'il pouvait découvrir tout de suite, plutôt que d'attendre un rapport exhaustif qui ne leur parviendrait qu'au bout de plusieurs semaines. « Hello, Phil !» lui lança-t-elle. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et leva une main distraite pour la saluer, puis, découvrant sa mine lugubre, se retourna pour de bon. « Jack ?» demanda-t-il. Phil avait 4 enfants. « C'est pas à cause de lui que je suis de mauvaise humeur !» dit-elle entre ses dents. « Alex ? C'est pas lui non plus !»« Ses parents débarquent !» expliqua Neil derrière elle. « Tu as des parents ?» Didi fusilla Phil du regard. Il se hâta de reporter son attention vers l'ordinateur, ce qui permit à Didi de diriger la sienne vers la cuisine. Accolée au mur du fond, la petite table en bois était flanquée de 2 chaises en bois branlantes, dont l'une était actuellement occupée par un cadavre. Le légiste, Ben Whitley, était penché sur le corps. Lorsque Didi s'approcha, il leva les yeux, mais elle remarqua qu'il prenait soin de ne pas regarder Neil. « Oh ! » eut-elle envie de dire. « C'est sûrement passager. » Elle se concentra sur la victime, un blanc, soit vraiment obèse, soit vraiment ballonné, avec des cheveux bruns tout gras et 2 trous dans la tempe gauche. « Personne n'a entendu les coups de feu ? » demanda-t-elle. L'odeur fétide de l'urine lui piquait encore les yeux. Elle comprenait maintenant le mouchoir de Neil et elle se força bravement à ne pas avoir de haut-le-cœur. « Dans ce quartier ?» ironisa Neil. Didi fit la moue. Un point pour lui. La masse considérable du mort commençait juste à se tordre dans son jean, qui lui moulait les jambes comme des boudins, et dans sa chemise à carreaux rouges. La violence des coups de feu avait fait basculer sa tête en arrière, et sous l'effet du phénomène de rigidité cadavérique, les traits de son visage s'étaient sans doute figés 2 à 6 heures après le décès. Mais au bout de 2 ou 3 jours, cette rigidité s'était estompée. Les muscles s'étaient relâchés et la chair de ses bas-joues avait coulé sur son visage comme de la cire sur une bougie. Étape suivante du processus de décomposition, la putréfaction. Dans les 24 heures qui suivent le décès, l'activité des bactéries hébergées par le corps produit des gaz qui engendrent un ballonnement et une odeur très particulière que connaissent les enquêteurs et les médecins légistes du monde entier. La peau de l'abdomen et du bas-ventre prend une teinte bleu-vert, et le contenu du tube digestif se répand par la bouche, le nez et l'anus. Le processus de décomposition n'est pas joli à voir, si bien que, l'un dans l'autre, Didi était agréablement surprise par l'état de conservation du cadavre. Les bactéries commençaient seulement à faire leur œuvre, alors qu'elles auraient dû être en train de ravager les intestins du mort. Ça rendait la scène plus soutenable, même si, pour autant, Didi n'aurait pas eu envie d'être aussi près du corps que le légiste. « Tu dates ça de 3 ou 4 jours ?» demanda-t-elle à Ben, sur un ton qui laissait percer ses doutes. Il fit la moue, pensif. « Le froid inhibe le processus de décomposition. Vu la fraîcheur de cet appartement, il me semble que ça expliquerait la lenteur de la putréfaction. Mais je n'aurai de certitude que quand je l'aurai ouvert. » « Première impression ?»« Le décès a très probablement été causé par les 2 balles dans la tempe gauche. Un doublé à bout touchant. Tu remarqueras l'anneau de peau brûlée autour des orifices d'entrée et la proximité des plaies. À peine 1 centimètre entre les deux. Une exécution ? S'interrogea Didi en s'approchant malgré elle. Des blessures de défense ?
Négatif.
Didi avait une totale confiance en Ben. Il était l'un des meilleurs légistes que la ville ait jamais eu. Mais elle ne put s'empêcher de jeter un œil aux mains de la victime, parce que l'absence de blessures de défense n'avait pas de sens. Qui se laisserait abattre comme ça, assis à sa table de cuisine ?
Tu es sûr que ce n'est pas un suicide ?
Pas d'armes sur les lieux, pas de résidus de poudre sur ses mains, indiqua le légiste.
Puis il ajouta, comme pour lui reprocher courtoisement de mettre en doute ses conclusions.
À moins, bien sûr, qu'il n'ait porté des gants et qu'il les ait bien gentiment retirés après s'être flingué et avoir caché l'arme.
Didi ne se le fit pas dire deux fois. Elle se retourna vers Neil.
Effraction ?
Le rouquin secoua la tête, l'air satisfait.
Les premiers intervenants se sont fait ouvrir la porte par le gérant de l'immeuble. Aucune trace de crochetage de la serrure. Les fenêtres sont intactes. D'ailleurs, elles sont tellement gauchies qu'on ne peut pas les ouvrir.
Didi toisa son équipier.
Tu ne vas pas me le dire, hein ?
Non.
D'accord, d'accord, marmonna-t-elle. Je relève le défi.
Elle poursuivit son examen de la scène de crime. Les plaies sur la tempe de la victime étaient bien rondes. Étant donné l'absence d'orifice de sortie, elle pensa à une arme de petit calibre, un 22 par exemple. Un pistolet facile à dissimuler jusqu'au dernier moment, surtout en cette période de l'année où tout le monde est emmitouflé dans de gros blousons d'hiver. En même temps, c'était un choix discutable pour qui voulait commettre un meurtre. Pas très percutant, un 22. Les aficionados des armes à feu appellent ça des pistolets pour tireurs du dimanche. Tout juste bon à dézinguer des boîtes de conserve ou des écureuils, voire à être balancé à la tête de l'adversaire en dernier recours. Quantité de gens blessés par un 22 en réchappe, donc ce pistolet de petit calibre n'est pas le plus adapté à une exécution. Didi poursuivit son analyse. L'assassin était très probablement connu de la victime. Celle-ci lui avait non seulement ouvert la porte, mais l'avait laissé entrer chez elle. En outre, s'asseoir à la table de cuisine était un signe d'hospitalité. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire, ce genre d'ambiance ? Didi s'approcha de l'évier. De fait, dans le bac en inox dégoûtant se trouvaient 2 mugs bleus ébréchés. D'une main gantée, elle prit le premier et en examina le fond. Aucun résidu sec visible, donc soit les mugs avaient contenu un liquide transparent, soit ils avaient été rincés. Elle les reposa pour qu'ils soient ensachés et étiquetés par les techniciens, et prit conscience d'une anomalie. Les mugs avaient été rincés et posés dans l'évier. Mais rien d'autre dans l'appartement ne semblait avoir été rincé, épongé ou lavé de quelque manière que ce soit depuis au moins 6 mois. Les plans de travail étaient poisseux et sales. Idem pour le sol souillé d'urine, la couche de crasse sur le plancher et les murs constellés de taches. Elle considéra de nouveau la table en bois, dont la propreté parfaite lui parut également suspecte. Elle passa un doigt ganté sur son plateau balafré. Oui, elle était vieille, d'accord, elle avait fait la guerre, mais elle était propre. Donc 2 mugs rincés, une table en bois nettoyée. Elle leva les yeux vers Neil, qui affichait un sourire encore plus épanoui. « L'assassin a fait le ménage derrière lui, » murmura-t-elle. Il refusa de répondre, mais comme on lisait en lui comme dans un livre ouvert, c'était inutile. Ensuite, Didi ouvrit le réfrigérateur. Elle découvrit une boîte de pâté pour chien entamée qui empestait encore plus que le reste de l'appartement, un pack de 6 bières, des canettes de soda au vin, des Hostess Twinkies, des boîtes contenant des restes de repas chinois, une demi-douzaine de condiments et les rogatons d'un poulet rôti daté de 10 jours. Donc la victime aimait les plats à emporter et avait un faible pour les sucreries. Didi ouvrit certains placards, découvrit des assiettes en carton en guise de vaisselle, des couverts en plastique en guise d'argenterie, ainsi que de multiples étagères de chips, biscuits apéritifs, céréales et cookies industriels. Le dernier placard était dévolu aux chiens, sacs de croquettes pour chiots et autres boîtes de conserve. Didi affina son profil psychologique. Homme, blanc, célibataire, la quarantaine, qui vivait en vieux garçon dans un logement social. Pourquoi cet immeuble ? Un blanc devait forcément faire tâche, se sentir mal à l'aise. Souffrait-il de la solitude ? Ce qui expliquerait qu'il ait adopté un chiot ?
Il avait des visites, cela dit. Il avait reçu quelqu'un qui l'avait peut-être invité à prendre un verre.
« Viens donc chez moi voir mon nouveau petit chien, on prendra un verre, on grignotera un biscuit ou deux. »
Didi éprouva un pressentiment familier, une sensation particulière qui, chez toute bonne enquêtrice, prend naissance à la base de la colonne vertébrale et remonte en un éclair le long de son échine jusqu'à sa nuque, où ses poils se hérissent et la font frissonner. Elle lança un regard à Neil, qui avait toujours le sourire jusqu'aux oreilles.
« C'est pas vrai !» s'exclama-t-elle.
« Oh que si !»«
Qu'a trouvé Phil ?»«
Dans l'ordinateur, je ne sais pas, mais on a déjà découvert deux boîtes à chaussures pleines de photos planquées sous le lit. »«
Fichier ?»«
Aucune touche pour l'instant, mais on en est encore à chercher son nom et ses empreintes dans le fichier national. »«
Mais les photos ?»«
Rien que des garçons, tous de moins de 12 ans, noirs pour la plupart, mais pas que. » Je dirais qu'il choisissait ses victimes en fonction des occasions qui se présentaient sans s'arrêter à leur couleur de peau.
Salopard, un pédophile. Monsieur installe sa petite entreprise au cœur de sa population cible, des gamins mal aimés, mal surveillés, éminemment vulnérables. Il attire leur attention en promenant son petit chien et les invite à monter prendre un cookie, des chips, une bière. Oh, salopard.
Didi ? D'un œil noir, elle considéra le mort. Les deux trous dans sa tempe, le visage de cire fondu.
Un gamin s'est vengé, marmonna-t-elle avant de repenser à la table méticuleusement nettoyée. À moins que ce ne soit un parent, un grand frère, un ami. Quelqu'un a pigé et il a payé. Tant mieux.
Didi.
Quoi ?
Il y a mieux.
Mieux que d'apprendre qu'il y a un pervers de moins dans cette ville ?
Phil sortit de la chambre, retira ses gants en latex.
Tu lui as dit ?
Demanda-t-il à Neil.
Me dire quoi ?
Tu étais en congé maternité, répondit Neil, comme si ça justifiait tout.
Me dire quoi ?
Ce n'est pas seulement un pervers de moins qu'on a, se réjouit Neil. Monsieur, tu veux voir mon petit chien ? Est le deuxième. Pour Didi, Phil et Neil durent reprendre toute l'histoire de zéro. L'affaire remontait à 4 semaines. Donc à l'époque, Jack en avait 6. C'était un petit être potelé qui passait ses journées recroquevillé contre la poitrine de Didi, comme une bouillotte. Sauf qu'il était fragile et avait besoin d'une attention de chaque instant. Alors elle passait des heures entières dans le rocking chair avec lui, à compter ses doigts, ses orteils, à caresser les mèches incroyablement soyeuses qui lui saignaient le crâne. Alors non. En aucun cas, elle n'avait regardé les informations parce qu'elle avait été présente pour son bébé comme jamais elle n'avait été présente à aucun moment de sa vie. Totalement. Complètement. Sans un mot, ni une pensée, ni aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre. Tous les soirs, en rentrant du travail, Alex les regardait, Jack et elle, dans le rocking chair, et il lui souriait comme jamais aucun homme ne lui avait souri. Et elle éprouvait un étrange sentiment. Le sentiment d'être à sa place. D'exister. Un sentiment de plénitude, peut-être. Pendant les 8 semaines de son congé maternité, elle s'en était repue. Donc, 4 semaines plus tôt, Didi faisait son nid avec son bébé à Waltham, quand un délinquant sexuel de niveau 3 avait été abattu dans son appartement près de l'hôpital de Suffolk County. Pas dans sa cuisine, précisa aussitôt Phil. Dans l'entrée. Comme si, dès qu'il avait ouvert la porte, boum boum, 2 balles de .22, bien placées. Pas de témoins, même si quelques voisins avaient signalé avoir vu rôder un jeune homme, peut-être un adolescent. Les fouilles menées au domicile de la victime avaient permis de découvrir des vidéos porno et une collection considérable de photos sur son ordinateur. Toutes montraient des filles et des garçons âgés de 6 à 12 ans en train d'accomplir divers actes sexuels. Le simple fait de posséder un ordinateur contrevenait aux conditions de libération conditionnelle de la victime, Douglas Antihold. Et les enquêteurs estimaient donc qu'on pouvait, sans trop s'avancer, penser qu'il s'était écarté du droit chemin et avait recommencé à piétiner de jeunes existences.
« Des pistes ?» demanda Didi.
Phil était désabusé. « Si tu croises un homme blanc âgé de 16 à 25 ans en blouson d'hiver foncé et bonnet de laine bleue marine, tu nous préviens ?»«
J'imagine que les gens se précipitent pour donner des infos en téléphonant au numéro spécial. » »«
Tu penses ?» Les voisins ont fait un feu de joie quand il est mort. Il n'était pas franchement apprécié, et ça, c'était avant qu'on découvre le contenu de son ordinateur.
Didi méditait. Il avait un chiot ?
Phil secoua la tête.
Il va falloir comparer les photos stockées par les victimes, songea-t-elle tout haut, et elle eut aussitôt un mouvement de recul. Passée de Jack à ses images, elle hésita. À ses côtés, Phil, le père de 4 enfants, semblait tout aussi mal à l'aise. Neil prit la parole.
« Je m'en charge. »
Phil et Didi le regardèrent. « Ce n'est pas que j'en ai une folle envie, » dit-il en haussant les épaules avec embarras. « Mais je n'ai pas d'enfant. Alors que vous... Je ne sais pas, ce sera sans doute plus facile pour moi de travailler dessus. D'ailleurs, c'est toujours moi qui m'occupe des cadavres. Ça ne doit pas être tellement plus difficile. »
« Si, infiniment plus, » le détrompa aussitôt Phil.
« Pour les morts, le pire est déjà derrière eux. Tandis que ces enfants... »
Neil haussa de nouveau les épaules.
« Il faut bien que quelqu'un le fasse, non ? Mieux vaut que ce soit moi plutôt que vous. »
Phil hocha lentement la tête.
« Je crois qu'on finira par tirer quelque chose du petit, » dit-il à Didi.
« Manifestement, notre éducation porte ses fruits, » renchérit-elle.
Neil leva les yeux au ciel.
« Des conseils à me donner pour une première fois ?»«
Ne te contente pas de regarder les victimes, » lui expliqua Didi. « Croiser leurs identités est une première étape, mais il faut aussi examiner l'arrière-plan de chaque photo. Cherche s'il y a des éléments récurrents, les rideaux, les tapis, la literie. Parfois, ce ne sont pas les personnes, mais les lieux qui sont communs. Dans un cas comme dans l'autre, ça nous fournira un lien entre nos pervers. Quand tu auras fini, on enverra les clichés au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Leurs experts recommenceront, mais en comparant les images à une banque de données nationale. Ils utilisent aussi un logiciel de reconnaissance faciale, ça aide. »
Neil était impressionné. « Il faut qu'on t'envoie à l'académie du FBI, » dit Didi à son jeune collègue, comme elle le faisait au moins une fois tous les 6 mois. L'académie du FBI à Quantico dispensait des formations de haut niveau sur 10 semaines, et ces stages étaient considérés comme un passage obligé pour tout agent promis à un brillant avenir. Lorsque Didi y avait été élève, elle avait passé une journée entière au Centre national pour les enfants disparus et exploités. L'occasion pour elle non seulement de mieux comprendre les moyens que le centre mettait à la disposition des polices locales, comme celle de Boston, mais aussi de se féliciter d'être enquêtrice dans une police municipale, plutôt qu'une criminologue qui ramerait à contre-courant pour venir en aide aux enfants victimes d'abus sexuels. Elle interrogeait Neil du regard. Il détourna les yeux comme chaque fois que la question de l'académie venait sur le tapis.
« L'assassin est droitier, » dit-il entre ses dents pour changer de sujet.
« Vu l'angle de tir,
ça ne réduit pas des masses l'éventail des suspects, » rétorqua Didi.
« Les meurtres ont eu lieu en plein jour. »
« Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » ?»«
Dans ces 2 quartiers, personne n'ouvrirait sa porte à la nuit tombée. »«
Mais on n'a pas de témoin, » objecta Didi.
« Parce que, dans les 2 quartiers, » répéta Neil, « les gens ont appris à ne rien voir. Et dans le cas contraire, plutôt crever que de nous le dire. »
« Pas faux. »
Didi se tourna vers Phil.
« Pendant que Neil s'occupera des photos, il faudrait que tu m'auscultes les ordinateurs des 2 victimes. Les pédophiles agissent en réseau. » Ils vont sur des forums, postent sur des blogs, cherchent leurs semblables. Même si nos 2 victimes ne se sont jamais rencontrées en chair et en os, ça ne veut pas dire que leurs chemins ne se sont pas croisés sur Internet. Si on trouve le dénominateur commun, on pourra peut-être tirer le fil.
L'ordinateur d'Anti-Hold a déjà été analysé, donc il ne nous reste plus qu'à disséquer celui-là et j'aurai toutes les cartes en main.
On va requérir les vidéos du quartier, réfléchit tout haut Didi.
Elle voulait parler des caméras de vidéosurveillance qu'on trouvait à tous les coins de rue, propriétés de la ville de Boston, d'entreprises, ou même, dans certains cas, de citoyens inquiets et désireux de se mettre à l'abri de la criminalité. On ne sait jamais si on trouvait des images d'un homme blanc de 16 à 25 ans avec un blouson d'hiver foncé et un bonnet de laine bleu marine.
L'idée fit sourire Phil et Neil, mais Didi reprit.
« Je ne plaisante pas.
Oubliez la tenue et la tranche d'âge. Pensez. » Jeune blanc.
Vous en voyez beaucoup dans la rue.
Dans ce quartier, les blancs se comptent sur les doigts d'une main. Il faut en profiter.
On met les médias sur le coup ? Demanda Phil.
Didi n'avait pas encore réfléchi à la question.
Peut-être. Si on obtient un portrait robot plus précis de l'assassin. En attendant, je n'en vois pas l'intérêt.
Neil parut surpris.
Mais on a 2 meurtres et le second remonte déjà à 3 ou 4 jours. Alors peut-être qu'en ce moment même, un assassin est en train de cibler une 3e victime.
« Un 3e pédophile, tu veux dire ?» murmura Phil.
Didi était plus circonspecte.
Les deux homicides seraient l'œuvre d'un seul et même assassin. Tu en es sûr? Tu as un témoin qui a la certitude d'avoir vu la même personne ici et là-bas. Tu as un rapport des services balistiques confirmant que les balles retrouvées sur cette scène de crime sont en tout point semblables à celles qu'on a retrouvées chez Antihold.
Neil reconnut que non.
Dans ce cas, déclara Didi avec énergie, n'allons pas trop vite en besogne. Je ne voudrais pas affoler inutilement les citoyens de notre bonne ville. Et puis, peut-être que je ne voudrais pas non plus encourager les pervers de Boston à se montrer exagérément prudents.
Neil ouvrit de grands yeux. Comprenant ce qu'impliquait la décision de Didi, il jeta un regard vers Phil, dont le visage était aussi implacable que celui de sa collègue.
« Eh bien, » murmura Neil, « moi qui me demandais si la maternité l'adoucirait. »
Au moment même où il disait cela, le Benjamin de l'équipe réalisa qu'il aurait sans doute dû garder cette réflexion pour lui. Mais Didi se contenta de lui administrer une tape dans le dos.
« Toi aussi, tu m'as manqué, » lui dit-elle avec bonne humeur. « Bon, ne le prenez pas mal, mais il faut que je sois rentrée chez moi à 17h, ce qui nous laisse, » conclut-elle en regardant sa montre, « environ 6 heures pour coincer un assassin. En piste. »